le champ, j'utilise les objets, j'utilise les post-it, le dessin, la vidéo.
L'art contemporain, c'est cette hyper ou ultra sensibilité à son époque.
Patrick, je t'en prie, c'est quoi ce truc là?
C'est un sculpteur grec qui l'a fait. Takis Naadincho, j'ai vu quoi. En Californie, c'est de la folie, tout le monde se l'arrache.
Et ça sert à quoi?
Ça sert à quoi? C'est de l'art, il est con celui-là. Ça sert à rien, tu mets ça chez toi et puis c'est tout.
Et donc qui est en relation très forte avec l'actualité, avec le monde dans lequel on vit.
En lien avec le design, en lien avec les industries, en lien avec le social, avec l'économie.
Chronique MP Vite, un rendez-vous mensuel avec l'art contemporain présenté par Pauline Venet.
Salut Pauline.
Bonjour.
MPVIT, une structure créée par un artiste qui promeut l'art contemporain et ses artistes, pourrait-on dire, et qui donne rendez-vous chaque mois sur Jet FM et chaque trimestre également. On est en train de concocter une émission trimestrielle, on vous en dira un petit peu plus. Aujourd'hui, je crois savoir que tu vas nous parler d'un artiste, d'une exposition, d'un projet. Enfin, l'artiste lui-même va en parler. Qui as-tu invité?
J'invite Wilfried Neil. Un artiste multiple, donc autour d'un projet transdisciplinaire qui s'appelle Under the Sun, autour d'une expo qui en ce moment a lieu à l'atelier jusqu'au 23 décembre, qui s'appelle Nucleus, on va en parler après. C'est un projet dirigé avec Swan Mani, une plasticienne tunisienne, et un projet à dimension internationale qui s'étendra de 2016 à 2019. Bienvenue Wilfried.
Bonjour.
Bonjour Wilfried.
Comment a émergé ce projet Under the Sun?
Alors, je vais faire un peu courte. C'est né dans le cadre de la coopération entre la région des Pays de la Loire et GAFSA. En fait, il y a quelques temps, ils ont créé une coopération plutôt dans le domaine agricole, d'échange. Parce que GAFSA, c'est une ville industrielle, c'est un territoire industriel.
C'est minier aussi.
C'est minier, voilà, c'est ça, plutôt. C'est minier, c'est la quatrième plus grosse exploitation de phosphate au monde. Sauf que avec l'industrialisation et sa modernisation, les mines ont changé, l'exploitation et le mode de production a changé, donc ce qui a créé énormément de chômage dans cette région. C'est une région, c'est l'une des régions les plus pauvres de la Tunisie. Donc ils sont en train de travailler sur des, réfléchir à des nouveaux moyens de gagner de l'argent, de subvenir à leurs besoins. Et moi, j'ai un peu regardé cette ville un peu de loin. Et un jour, j'ai lu un article sur un lac mystérieux, le Gafsa Beach, arrivé dans le désert en 2014. Et assez rapidement, le lac avait cette... Il y avait une rumeur sur le fait que le lac était une bénédiction et en même temps une malédiction. Et parallèlement à ça, on a la démocratie qui se met en place en Tunisie. Oui. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, ce lac, il peut être à l'image d'une démocratie naissante. Il y a des choses un peu dures, il y a des choses super belles. Et voilà, c'est un peu... C'est ça qui m'a, après... confronté et puis à l'idée de faire quelque chose là-bas. Suite à ça, c'est ajouté aussi le fait que c'est une région, d'un point de vue archéologique, très 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 riche. Il y a plus de 40 000 ans d'histoire, au minimum 40 000 ans d'histoire, avec un Hermagnon notamment qui a été trouvé là-bas, qui serait l'une des premières, alors je sais pas comment on peut appeler ça, mais un lieu dédié à l'eau. Parce que Gafsa, ça veut dire « ici, il y a de l'eau ». Alors qu'on est aux portes du désert. On n'est pas encore dans le désert, on est dans une région plutôt très rocheuse, beaucoup de cailloux, etc. Et au sud de cette région, c'est un grand lac salé. Et au sud de ce grand lac salé, là, il y a vraiment le désert. Donc l'homme se serait implanté, bon, il y a plus de 40 000 ans, dans cette région, dans des sources artésiennes, c'est-à-dire des sources qui sont sous pression. Et donc l'eau sort comme ça de façon naturelle.
Donc, il y a des jaillissements d'eau, comme
des jaillissements d'eau. Ben, ça, après, ça passe à travers des roches, donc ça coule assez doucement.
D'accord.
Donc, voyant ça, moi, je m'intéresse beaucoup aussi dans mon travail en tant que plasticien, en tant qu'artiste, à la question du politique, pas de la politique, mais bien du politique. Et, bon, voilà, cette histoire, l'archéologie, les transformations sociales, l'industrie du phosphate qui transforme le paysage aussi, c'est-à-dire que c'est une industrie à ciel ouvert, donc ils explosent carrément les montagnes, et donc tout ce qui est en bas se retrouve en haut. Par exemple, on retrouve des fossiles en haut de monts artificiels, donc on a un paysage qui est complètement retourné.
Parce que les machines malaxent tout ça, quoi.
Parce que les machines malaxent tout ça, parce qu'ils y vont à coup de dynamite, et que voilà. Donc ça donne, paradoxalement, c'est très très beau. C'est juste magnifique.
D'accord.
Donc, assez rapidement, voilà, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de monter une équipe là, de qui croiserait artistes, chercheurs, scientifiques, et de réfléchir à, plutôt que de voir ce territoire comme un territoire délaissé, massacré, est-ce qu'on pourrait pas valoriser une certaine forme du patrimoine de cette région et montrer autre chose.
Je comprends mieux le titre Under the Sand, voilà. Sous le sable, évidemment.
Tout à fait, ouais. Et comment s'est fait la rencontre avec Swad, Mani et les autres artistes
alors,
qui sont présents dans cette expo collective?
Alors moi, du coup, je ne connaissais pas très très bien la Tunisie. Après, j'ai d'autres histoires avec la Tunisie, mais bon, on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas développer. Assez rapidement, j'ai cherché...
Tu reviendras, Wilfried?
Je reviendrai, avec plaisir. Et j'ai cherché sur le net, cherché des artistes tunisiens. J'ai rencontré Swad parce que c'est une artiste qui pollinise beaucoup, c'est-à-dire qu'elle se sert beaucoup des outils Facebook, Instagram, tout ce qu'on appelle le microblogage, qui est pour elle son espace d'exposition aussi. C'est à travers ça qu'elle et sa connexion au monde, parce que la Tunisie pendant longtemps ça a été très très fermé. Même encore, ça s'ouvre beaucoup, mais bon, les lieux, les dispositifs artistiques, tout ce qui c'est pas du tout encore au niveau de ce qu'on peut trouver en France. Mmh. C'est là où on se rend compte qu'en France, on a vraiment des dispositifs extraordinaires qu'il faut défendre, qui sont en danger perpétuellement, mais qui sont encore là. Et c'est très très chouette. Et il s'est avéré que soit des enseignantes et qu'elle a enseigné 4 ans à GAFSA dans le début de sa carrière d'enseignante chercheur en art plastique. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est parfait, je la contacte et je lui propose ce projet d'échange, cette idée autour du lac. Puis assez rapidement, elle me répond OK. Et à partir de là, le projet se transforme et on le co-construit ensemble.
D'accord. Et le projet valorise la mobilité artistique en Tunisie, enfin, est porté par le gouvernorat de GAFSA, par
Il
y a un vrai échange entre les deux pays qui va s'opérer.
Ouais, c'est en train de se mettre en place tout doucement parce que bon, c'est quand même compliqué. On est dans une démocratie naissante, on a une bureaucratie très 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 lourde et donc on propose justement un échange. Donc le principe, c'est de faire une résidence in situ, c'est-à-dire que les artistes, à l'image d'archéologues, ils sont jetés dans le territoire et en général, les premières résidences, ça a été des grandes balades en voiture, on a été voir des territoires, mais il y en a tellement, c'est tellement beau. Et on a commencé juste au début, c'est le paysage. Et puis du paysage, à chaque fois qu'on s'arrête quelque part, on prend une photo, on rencontre des gens, créer des histoires, et de ces histoires, créer des axes de recherche. Et tout doucement, comme ça, les artistes, en fonction de leurs axes de recherche, se disent, tiens, j'aimerais bien travailler avec un archéologue, avec un scientifique, avec un biologiste, autour du lac notamment. Et voilà, ça se met comme ça en place. Donc au début, bah, c'est surtout des fonds région, Nantes et Institut français. Et il y a un partenariat qui s'est mis en place avec le ministère de la Culture, ce qui est assez incroyable, mais qui nous aide beaucoup.
Le ministère de la Culture
tunisienne. Ouais, et qui a vraiment vu cette dimension en fait de valoriser la jeune création tunisienne, le fait qu'il y ait un vrai échange, c'est-à-dire que nous on arrive là-bas, on apprend aussi, on amène avec des idées, on arrive avec des idées, des propositions, mais on est dans une certaine souplesse et dans une certaine possibilité de réaction, c'est-à-dire que le projet, on n'arrive pas et on n'aplatit pas et
figé.
On déroule pas, voilà, c'est pas un projet figé. Du coup, il y a un vrai échange et le projet s'adapte. De là, on a créé un partenariat avec le rectorat du gouvernorat de GAFSA. Donc, on est accueillis dans l'ISAM, l'Institut supérieur des arts et métiers de GAFSA, qu'on transforme tout doucement en centre d'art à l'intérieur duquel on mène des workshops avec des étudiants. Là encore, aussi, travailler avec des étudiants, c'est l'occasion de rencontrer aussi encore plus après la population. Et là, on réfléchit à d'autres manières d'intervenir. Mais là, moi, maintenant, ça fait un an et demi. Enfin, le projet, j'écris depuis 2 ans. Ça fait un an et demi que je vais là-bas. J'ai fait 4 trajets. On me dit presque que je suis gaffien, quoi.
Oui, c'est ça. Il y a un rapport au temps qui est très déployé. Hein.
Qui est très, très important. Parce qu'il y a on ne peut pas aller aussi vite qu'en France. Il faut vraiment s'imprégner, comprendre le fonctionnement, voir pourquoi certaines choses, pourquoi ça ne va pas. Okay. Voilà. Et puis rencontrer des gens, c'est pas, ça se passe pas en deux secondes, quoi. Rencontrer des gens, ça demande de partir, de revenir, de créer une vraie amitié culturelle. Et puis, par exemple, il y a des détails importants, mais par exemple, quand nous on prend photo une déchetterie à ciel ouvert et qu'on nous dit qu'est-ce que c'est que ça, pourquoi vous prenez ça en photo, nous on dit mais non. En fait, on doit expliquer, par exemple, pourquoi on a pris une déchetterie en photo, mais parce que ce qu'on étudie en archéologie, l'histoire de l'humanité, qu'est-ce qu'on étudie? On étudie les déchets, des restes de silex, des restes en fait. Et une déchetterie contemporaine pourrait être vue, d'un certain point de vue, comme ce qu'on pourrait étudier dans 200 ans, 300 ans, 1000 ans, 2000 ans. Parallèlement à ça, comme c'est une région aride, les seuls endroits où il y a des points de couleur, là-bas il y a beaucoup de sacs en plastique bleu, donc ils appellent ça les petites fleurs bleues. Donc c'est d'une certaine manière, si on poétise un peu la chose, on pourrait voir un champ de couleurs, de quelque chose de très pictural. Donc après, on explique ça, qu'en fait, valoriser un patrimoine, c'est aussi valoriser ça, aussi bien que le patrimoine antique, que le patrimoine arabe, que le patrimoine contemporain.
Rien n'est incompatible, voilà.
Non, il y a des croisements.
Tout fait patrimoine, finalement.
Finalement, tout fait patrimoine. Et on pose la question, justement, de qu'est-ce que c'est qu'un patrimoine contemporain.
Il reste 5 minutes, Pauline.
Et donc, avec ce projet, vous avez vraiment un regard archéo-artistique. Et il y a quand même un lien avec ta pratique, ton approche de l'objet, du matériau récupéré, trouvé. Et toi, qu'est-ce que tu as développé exactement dans ces... vers quoi se sont orientées tes recherches? Donc vers ce lac.
Ouais, alors
et dans l'exposition, par exemple, on peut retrouver une sorte d'étude du terrain en photo.
Ouais. Bah, en fait, toute l'exposition, on présente des objets en transition. C'est pour ça que moi, j'ai appelé ça des objets d'étude. C'est-à-dire que ça pourrait être des œuvres, mais elles ne sont pas signées, elles ne sont pas revendiquées par aucun artiste parce que tout est en étude. Donc, donc on est à une étape. L'exposition elle-même est une sorte de retour de laboratoire. On a fait des recherches, on est revenu, et là, c'est comme si on déployait quelque part notre laboratoire. Moi, j'ai une pratique assez... Mon travail, ça fonctionne beaucoup comme ça. Je travaille beaucoup à partir des rébus de nos sociétés, par exemple avec du verre qui a été cassé pendant les manifestations. Je travaille aussi sur l'idée du geste, le fait que casser, ça prend du temps, c'est assez rapide, mais reconstruire, ça prend du temps. Je travaille sur cette idée de palimpseste, une écriture perpétuelle qui peut tout le temps se réécrire, se réinventer.
Palimpseste, c'est ce qu'on peut lire des deux sens?
Palimpseste, c'est comme un livre qui s'efface et sur lequel on réécrit.
D'accord.
À l'infini. Et je m'intéresse beaucoup à ce rapport aussi, au fait qu'on peut poser un regard sur un objet. Et si on le déplace, cet objet, un peu, bon, ça revient à Duchamp, etc. Mais si ça dépend du regard. Cet objet peut devenir une œuvre d'art ou rester un objet. Tout dépend de ce qu'on est en train de faire.
Ouais, c'est Duchamp, un peu.
Ouais. Mais en Tunisie, par exemple, moi, j'ai développé une collection de bagnoles explosées. Et j'adore cette collection parce qu'en fait, les voitures, elles ont été complètement dépouillées de plastique, de tout ce qui contient les fils. Il n'y a plus que de la tôle broyée.
Ce qui n'a plus de valeur du tout.
Ouais, plus de valeur. Mais même, en même temps, elles ont été quand même transformées par des gestes, par des humains.
Donc elles ont cette valeur-là.
Elles ont cette valeur-là.
Résiduelle, finalement.
Un résidu, mais en plus, elles ont été déplacées. Donc elles ont été reposées dans un certain endroit. Donc ça se rapprocherait presque à du land art. Il y a presque quelque chose de volontaire. Et donc, moi, je me suis beaucoup intéressé à ça. Je développe plusieurs projets parallèles. L'idée de créer une sorte de monte veritas autour du lac, c'est-à-dire transformer le lac en objet d'étude aussi, faire des interventions, des performances, faire venir des étudiants, faire venir des scientifiques, questionner ce lac. Mais à partir de cela, questionner aussi un imaginaire qui peut s'en découler. Et
c'est la construction d'un carrefour, finalement, toutes ces compétences,
les interconnexions entre les domaines scientifiques et les sciences humaines, et que tu peux faire venir des professionnels, des scientifiques,
l'idée.
La chimie, l'anthropologie.
Exactement, c'est ça, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte aussi que finalement, ça intéresse aussi bien les scientifiques que les artistes de travailler ensemble. L'archéologue avec qui on travaille, ça valorise son travail de recherche. Ça le met, par exemple, il y a de l'argent du ministère de la Culture qui va beaucoup dans la communication, mais très peu dans la recherche. Mais nous, avec Under the Sun, on fait aussi de la communication sur la valorisation du patrimoine. Du coup, ça réactive la recherche. Il y a des choses comme ça qu'on est en train d'essayer de mettre en place. Et lui, à la fin, il est très heureux parce que l'idée, à la fin, donc, du projet, c'est de créer une biennale de rencontres artistiques. Je ne dis pas une biennale artistique, c'est un peu trop prétentieux, mais de rencontres artistiques et scientifiques sur le territoire de GAFSA. Et suite à cette biennale, créer une édition qui mélange recherche aussi bien scientifique, culturelle, artistique, et avec des textes en fait qui pourraient venir d'un commissaire d'exposition ou d'un scientifique.
Qui pourrait servir de support aux étudiants aussi de GAFSA ou qui pour leurs études.
Exactement. En parallèle de ça, on propose aux chercheurs, aux étudiants en master. Comme souvent c'est sur 3 ans, de suivre le projet et de suivre le projet, de développer un sujet d'étude en parallèle du projet.
D'accord. Donc en fait, là, le but de la première exposition, c'est d'exposer un peu vos recherches un moment T.
Oui.
Et donc, elles seront suivies d'autres expositions en France et en Tunisie.
Exactement.
Pour suivre vos recherches.
En fait, il y a encore au moins 3 résidences qui vont se faire, avec au moins 5 ou 6 expositions. À Nantes, on pourra nous retrouver en décembre 2017 au lieu unique. On fait une résidence relais, où là aussi, on va essayer de développer aussi... On essaye de trouver des choses innovantes en France, et là, on va essayer de développer une sorte... d'école en même temps. C'est-à-dire qu'on va demander aux artistes qu'est-ce qu'ils ont envie d'apprendre. Et petite information, il y a des fonds AFDAS dédiés à l'art contemporain et personne n'y touche. On essaye aussi de trouver des économies en fait avec ce projet. Et donc on va transformer une résidence en formation pour artistes aussi.
Ah, super.
Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler, mais en un quart d'heure, tout ça c'est un peu court.
Projet. On te réinvitera.
Voilà. Donc c'est 1 rue Chateaubriand, l'atelier centre-ville à côté de Talensac. Il faut, si vous voulez aller voir l'exposition, ne pas hésiter à nous contacter sur la page Facebook Under the Sand, sur mon site wilfriednail.org, et aussi ne pas hésiter à solliciter les gens qui sont là, parce qu'on n'a pas beaucoup mis de texte. C'est assez abscon en fait qu'on rentre comme ça dans l'exposition. C'est volontaire parce qu'il y a tellement de choses à raconter que la seule façon de bien comprendre l'exposition, c'est la parole.
Très bien. Under the Sand, on a mis le lien sur le programme.
Jusqu'au 23 décembre.
Jusqu'au 23 décembre, on peut prendre rendez-vous justement pour rediscuter avec Wilfried, voilà, de façon peut-être un peu plus déployée. Merci Wilfried.
Avec plaisir.
Les post-it, le dessin, la vidéo.
C'était la chronique MP Vite.
L'art contemporain
à retrouver sur le www.jetfm.asso.fr.